Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International dans cette émission qui sera consacrée aujourd'hui sur RFI eh bien à une grande soirée de Ligue des Champions en Europe et en Afrique et nous serons d'ailleurs en direct en sortie de match. Alors, il y a d'abord eh bien le retour de Cristiano Ronaldo au club de ses débuts de carrière, celui qui lui offrit son premier ballon d'or, Manchester United. Cristiano Ronaldo vient avec la Juve pour jouer ce soir à Old Trafford face à des Mancuniens qui ont bien du mal à être réguliers, même sur leur pelouse. L'OL en Allemagne, le club de Jean-Michel Aulas jouera à Hoffenheim, équipe qui est à la recherche de sa première victoire en Ligue des Champions. Mais un match nul offrirait aux Lyonnais la chance d'entrevoir en tout cas eh bien, le prochain tour de la compétition. Des Gones qui peuvent compter en plus sur son duo de buteurs Depay et Dembélé en l'absence de Fekir. À Tunis et à Sétif, Primero di Agosto de Luanda et Al Ahly du Caire tenteront de préserver chez leurs adversaires l'avantage acquis au match aller. Ce devrait être difficile de tenter de renverser la tendance pour l'Espérance et sûrement très compliqué pour Sétif. Enfin, les Gunners de retour dans le Big Four d'Angleterre. En alignant les victoires, les joueurs d'Arsenal reviennent parmi les meilleurs de la Premier League. Unai Emery est-il l'homme dont avaient besoin finalement les Emirates? En tout cas, les supporters des Gunners sont cette année very happy. Pour parler de ces sujets aujourd'hui, Marc Libra, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre camarade ancien footballeur et puis il y a Philippe Doucet de Canal+, à ses côtés. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Bonjour Monsieur Philippe. Et puis Yoro Mangara, bonjour Yoro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Camarade d'RFM Dakar, Radio Foot, c'est parti. Side went for goal and what a goal! Watch Cristiano Ronaldo! Fantastic! Manchester United!
Volver aquí à Manchester, pour moi, c'est une émotion.
C'était quelque chose d'énorme et de très émouvant pour moi de revenir à Old Trafford. Je me souviens comment c'était ici à Manchester. Je me souviens de tout, des trophées que j'ai gagnés, des Ligues des Champions, des coupes. Je me souviens aussi du soutien des supporters. C'était quelque chose de fantastique. Et Sir Alex Ferguson est quelqu'un que je n'oublierai jamais. Quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à franchir un cap dans ma carrière. Et je veux lui envoyer mes plus belles pensées. Ce fut une grande émotion pour moi dès que j'ai su que nous allions jouer contre Manchester.
Ce man génial, ce boy génial qui est Cristiano Ronaldo, qui a d'ailleurs bien failli manquer ce retour au Théâtre des Rêves où il s'est révélé à cause de ce carton rouge, le premier de ses 154 matchs de Ligue des Champions, qui a bien failli le priver eh bien, de ce match si important pour lui. Durant cette saison, il n'en a raté qu'un seul après avoir donc pris ce carton rouge, c'était à Valence. Le Portugais, qu'on ne surnommait pas encore CR7, de retour donc sur la pelouse d'Ultra Ford, où il a laissé ses empreintes et sans doute participé aux dernières grandes années des Red Devils. Philippe, j'imagine que les 74 000 spectateurs, je ne sais pas s'ils vont l'ovationner ce soir, mais en tout cas, ils vont bien l'accueillir.
Oui, j'en suis persuadé. Je pense l'ovationner très certainement parce que c'est
la classe anglaise.
Le public anglais n'est pas oublieux. Mm-hmm. Il sait faire référence au passé. Il exagère peut-être même parfois un peu dans ce sens-là, mais en tout cas, sur le plan de la sportivité, ça donne toujours des retours assez spectaculaires. Et évidemment, Ronaldo a marqué vraiment l'histoire de ce club. C'était un voyou génial. Il est arrivé, c'était un petit voyou, hein, Ronaldo, quand il est arrivé.
Un ado, hein, qui
ouais,
avait 18
un
ans
ado,
à peine.
Un peu, qui était un peu voyou, un peu qui bousculait les portes, qui bousculait les codes, qui bousculait même Sir Alex Ferguson.
Et qui disait déjà, je vais être le meilleur du monde.
Et qui disait d'ailleurs, je vais être le meilleur du monde et je vous emmerde tous, en gros. Hein. En clair, c'était à peu près ça. Après, il s'est un peu polissé avec le Real et autres, mais Il avait ce caractère et il correspondait très très bien au club. Il s'est marié avec l'histoire de ce club et la Ligue des Champions est venue avec.
6 saisons là-bas, un ballon d'or, une Ligue des Champions, 3 titres de champion d'Angleterre. Marc, c'est finalement, pour l'instant, dans l'histoire de Manchester United, c'est les meilleurs souvenirs des supporters. Depuis, ça a été plus compliqué.
Bah, c'est surtout les périodes Ferguson. Après Ferguson.
Ah oui, mais il reste jusqu'en 2013, si je me trompe.
Oui,
pas.
Mais on a eu une histoire avec une jeune génération, Giggs, Beckham, mm-hmm. Scholes, toute cette génération-là qui arrive et qui débute. Ronaldo doit aujourd'hui beaucoup à Sir Alex Ferguson, qui, quand il arrive, le terme de petit voyou n'est pas péjoratif, puisqu'il veut faire ce qu'il veut, il veut dribbler tout le monde, il veut faire, enfin, il se croit encore chez lui au Portugal, ouais. Il peut faire ce qu'il veut, donc il avait été d'ailleurs remarqué à l'époque, le remarque, parce qu'il fait un petit peu le voyou sur le terrain, il veut s'en prendre à tout le monde, à des cadres de l'époque de Manchester. Exactement. À l'époque, et il a dit, ce gamin-là a du talent, on peut faire quelque chose, donc il a été façonné par Ferguson, et aujourd'hui, nul doute qu'il va être reçu comme un héros, parce qu'il fait partie de l'histoire, comme peut l'être Beckham, comme peut l'être ces grands joueurs qui sont passés là-bas, mais il y a eu une vie Ferguson avec Ronaldo, parce qu'il a façonné comme Wenger avec Henry. On peut dire ce qu'on veut, mais Henry a appris énormément au contact de Wenger, et aujourd'hui, s'il y a une statue d'un côté, il peut y en avoir une de l'autre côté aussi.
Mm-hmm. Il est
arrivé à Manchester United en étant ado. Il est parti en devenant un grand homme.
Un adulte mature
qui a gagné. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sera émotionnellement très fort pour lui. Cristiano Ronaldo est un footballeur très, très émotif. Il a signé à la Juve parce qu'il a été applaudi et il a senti qu'il y avait ce public qui l'aimait et il s'est dit,
reconnaissait son talent, disons.
Exactement. Mmh. Et aujourd'hui, ce sera pareil. Et j'espère que cette émotion ne va pas prendre le dessus sur le footballeur qu'il est aujourd'hui. Il va continuer à jouer comme il sait le faire. Mais comme c'est un joueur très, très émotif, je pense qu'aujourd'hui, il aura des frissons en entrant sur cette pelouse de Old Trafford.
Ouais, on aurait dit qu'il avait déjà des frissons d'ailleurs quand il s'exprimait dans cette conférence de presse hier, hein, où il est allé, lui qui n'y va pas si souvent dans les entrailles de Old Trafford. Aujourd'hui donc, il porte les couleurs des Bianconeri, il vient avec la Juve qui reste sur 2 victoires en 2 matchs dans ce groupe, et il retrouve, parce que ça c'est aussi pour la petite histoire très important, en face un entraîneur, c'est évidemment José Mourinho. José Mourinho et lui, c'est pas le grand amour, même si c'est deux, ils sont tous les deux très importants dans l'histoire du football portugais. Mais en tout cas, José Mourinho, hier, ne pouvait que se courber devant le talent sportif de ce joueur.
Pour moi, la question ne se pose même pas. Il n'y a pas de débat. Cristiano est à un tel niveau depuis des années. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, tout simplement. Et personne ne peut dire le contraire. C'est l'un des meilleurs joueurs, c'est aussi simple que cela.
Est-ce qu'on devient sage avec le temps, même quand on est Mourinho, et qu'on ne peut que louer le talent de Cristiano Ronaldo, Philippe Doucet?
Oui, non, Mourinho est un acteur et il pouvait pas. Il y a des limites à tout là. Il pouvait pas. Il adore faire des provocations sur à peu près tout. Et je pense qu'il l'aurait fait aussi bien sur Ronaldo. Mais disons qu'en ce moment, peut-être que Mourinho n'est pas.
Ça s'y prête moins.
Oui, ça se prêtait moins. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a une forme de respect quand même. Il faut pas l'oublier. Mourinho respecte quand même 2-3 trucs dans l'histoire du foot. Et par exemple, respecter la carrière de Ronaldo me paraît quand même élémentaire, même si effectivement il ne s'aimait pas du tout au temps du Real. Mmh. Et même Ronaldo avait mis son poids dans la balance à l'issue de la 3e année de Mourinho en disant c'est lui ou moi, hein, moi je ne reste pas si lui reste.
Mmh. Mais beaucoup d'eau a coulé sous le pont hein, depuis, ils ont arrondi les angles.
Ça fait 5 ans.
C'est exactement quand Ronaldo voulait lancer son film il y a 2-3 ans, parmi les invités de Marc, il y avait Mourinho et ils ont arrondi les angles, ils se sont compris maintenant entre guillemets parce que Mourinho voulait le faire revenir mm-hmm. à Manchester United. Je pense que depuis cette époque de Madrid, il y a beaucoup de choses qui a changé entre les deux hommes.
Mais là, il n'avait pas trop envie de le faire revenir. Là, c'est, si la Juventus l'a emporté...
Le club en a parlé, mais Objectivement, à Manchester United, tout le monde savait que c'était une mission impossible et Ronaldo savait qu'il ne le ferait pas. Donc ça faisait pas beaucoup de possibilités.
C'était dû à l'âge du joueur et au salaire qu'il demandait.
Oui, bien sûr.
Exactement. Mm-hmm.
Mais justement, d'ailleurs,
les 4 ans de contrat que demandait George Mendes.
Exactement.
Surtout ça. Et sa commission.
Et puis je crois que Mourinho, qui a le même agent.
Florentino Pérez a dit niet. Alors c'est quand même.
Même ils ont le même agent.
Ils ont préféré le lâcher. Pour lui qui part finalement.
Mais alors justement, Marc, lui qui est, disait Yoro et a raison, un joueur émotif et aussi qui suscite le respect, est-ce que ce soir finalement Manchester United doit avoir peur de ce Cristiano Ronaldo qui revient et qui peut-être encouragé par un public qui va reconnaître son passé, ça peut le démultiplier
Il faut bien comprendre que dès que Ronaldo rentre sur un terrain, il fait peur à tout le monde.
Et aux adversaires donc.
Et surtout, vous êtes supporter de Man U, vous l'avez supporté, il y a énormément de respect, ce qu'il n'y en a pas forcément en France, donc il y a beaucoup de respect.
C'est compliqué dans ces cas-là de jouer, c'est-à-dire...
C'est pas évident. Moi je suis revenu 2-3 fois à Marseille. Franchement, c'est pas évident parce qu'on a tous nos repères, on connaît tous les gens du stade, on fait des bisous à tout le monde, on serre tout le monde dans nos bras. Ça fait longtemps, certains ne nous ont pas croisés. C'est voilà. Et alors, il faut essayer d'oublier ce genre de choses. Alors, je pense que Ronaldo, il est peut-être habitué, mais il peut être peut-être.
Mais ça fait longtemps qu'il est parvenu et il voulait tellement revenir. On se souvient du moment du carton rouge où tout le monde se disait.
Est-ce qu'il va pouvoir jouer?
Voilà, c'était l'obsession.
Oui, parce que le barème normalement, un carton rouge direct, c'est 2 matchs minimum. Donc, on pensait qu'il
Très compréhensif.
Mais l'UEFA était intelligente parce que le carton rouge était franchement pas une évidence. Donc ils n'ont pas déjugé l'arbitre en le laissant suspendu pour un match. Mais franchement, ça ne méritait pas de match.
Mais c'est vrai que ça paraît... il va y avoir beaucoup d'émotions. Après, pour revenir sur la déclaration de Mourinho, il ne faut pas oublier que Mourinho l'a coaché 3 ans. Donc il ne peut pas détruire son joueur en sachant que pendant 3 ans de sa vie, il y a prodigué des conseils. Alors ou pas, conseils ou pas, mais en tout cas, s'il se met à le tailler, moi je vous aurais dit, mais attendez, pendant 3 ans, il a eu sous ses ordres. Alors comment Mourinho peut tuer quelqu'un, entre guillemets? Alors il avait été, rappelez-vous, en 2013, il avait été très méchant par rapport au vrai Ronaldo. Et puis d'un coup, il le récupère. Ben non, attendez. Mais en fait, c'est se tirer une balle dans le pied. Il ne peut pas le faire, Mourinho, ce genre
de choses. Là, en ce moment, non. Peut-être parce qu'il n'est pas aussi à l'aise à Manchester, Philippe. Les résultats lui donnent pas la possibilité
il a toujours sa gloire, il se met toujours en avant.
On a vu ce week-end encore.
L'année dernière où il était un petit peu plus à l'aise parce que les performances étaient meilleures, il avait quand même dit, je ne sais plus à quelle occasion il avait parlé de Ronaldo, je ne me rappelle pas très bien quel motif avait pu amener ça, mais enfin, il avait quand même expliqué en gros qu'il avait fait grandir Ronaldo au Real, ce qui avait amusé beaucoup de gens, quoi. Parce que si
bon. Mais il le pense vraiment.
Je
suis sûr et certain.
Philippe, quel Manchester United ce soir? Parce que c'est une équipe finalement qui présente des visages assez versatiles. Ils ont été gagnés, à Berne, leur premier match assez facilement, mais ce n'était malheureusement que les Young Boys, doit-on dire. Par contre, Valence a arraché un match nul à Old Trafford.
Oh, c'est une équipe qui a beaucoup de mal à faire du jeu, comme Mourinho a toujours eu du mal d'ailleurs à faire jouer ses équipes. Elle a beaucoup de mal à être créative. Je pense que le fait de jouer à domicile n'est pas du tout un avantage parce qu'elle a souvent beaucoup de mal dans ces matchs-là. Dès qu'elle joue une bonne équipe, elle est dominée chez elle. C'est quand même assez étonnant. Elle joue City, elle joue Arsenal, elle joue Liverpool, elle est dominée à domicile. Alors c'est Mourinho qui l'accepte, mais c'est pas seulement qu'il l'accepte, c'est que son équipe ne construit pas un super football. Elle vaut surtout pour des rushs de Martial, de Rashford, des rushs de temps à autre individuels.
De Lukaku, Mata quand il rentre.
Qui peuvent faire la différence. Voilà, donc elle peut piéger la Juve. Mais paradoxalement, je pense ce soir qu'il ne faut pas du tout s'attendre à un schéma genre époque Ferguson avec Manchester qui assiège la Juve. Je crois que ça peut être l'inverse.
Oui, Yoro, d'autant plus que finalement, je sais pas, ça peut peut-être les motiver aussi, cette rage qu'il y a eu à la fin du match contre Chelsea où ils croyaient arracher une victoire à l'extérieur et ils se sont fait remonter dans les dernières secondes.
Il y a 2-3 semaines, ils ont arraché une victoire. C'était face à Newcastle aussi, dans les arrêts de jeu. Sanchez qui entre, qui place ses têtes.
Chacun son tour.
Exactement. Mais tout dépendra aussi de la compo de départ de Mourinho, parce qu'il lui arrive quand même de jouer très offensif avec Rashford, Martial, etc., pour donner un peu plus d'explosivité à l'attaque de Man United. Maintenant, des fois, il est frileux. Il met quatre milieux de terrain à vocation défensive avec deux attaquants. S'il le fait aujourd'hui, ils auront du mal au milieu de terrain. Mais s'il ose, il peut avoir quelque chose. Parce que quand même, lancer des flèches comme Martial, Rashford ou Lukaku, ça peut donner quelque chose.
Ce qui est faux, c'est que j'étais au stade lors de ce match face à Newcastle. À la mi-temps, il y a 2-0. Il n'y a absolument rien à dire. C'est une équipe qui marche. Pogba, il marche. Puis d'un coup, il fait sortir Eric Bailly. Il repasse à 3 derrière. Il met 5 joueurs devant. Il fait rentrer Sanchez. Il fait rentrer Mata. Et en fait, c'était sur le coup, c'était du grand n'importe quoi. Donc à la mi-temps, il est sifflé Mourinho, viré, sac, enfin tout ce qu'il y a. Et puis à la fin du match, tout le monde crie Mourinho, Mourinho. On avait vu un match complètement décousu, complètement mais fou, des fous, des gagas, tout le monde était content.
Fou comme, non, comme Mourinho.
Il reste à 3 derrière, à l'arrivée, il gagne 3-2 sur un match où il doit... Ou à la mi-temps, il y a 2-0, mais il y a rien. Et les joueurs marchent, ne font rien. Et puis en seconde période, contre le dernier championnat qui n'avait pas gagné une victoire.
Exactement.
Ouais. Et c'était, mais c'est-à-dire que si, la plupart des gens, je pense que c'était en France, ils quittent le stade, ils partent à la mi-temps et puis
ils ratent la fin.
Parce qu'on le sait, ça peut arriver. Et là, finalement, sur la dernière 20 minutes, 2-1, 2-2, 3-2, Sanchez qui rentre, qui ne joue pas tout le temps. Faut se poser la question, pourquoi aussi Sanchez, Alex Sanchez, ne retrouve pas son niveau d'avant? Pourquoi il ne joue pas? Pourquoi Mata, qui est un maître à jouer? Alors ce soir, il devrait jouer en rôle de numéro 10 ou 9,5, c'est important. Mais il y a beaucoup d'interrogations autour de ça.
Et alors, face à eux, quelle Juventus? Parce que la Juventus, elle a finalement bien, entre guillemets, digéré cette arrivée de Cristiano. Cristiano, il a mis un peu de temps à marquer, mais on l'a vu aussi être passeur décisif, Philippe.
Moi, je pense que la Juve fait partie, elle, des favoris de la Ligue des Champions. Elle
cette
fait
année.
Partie des meilleures équipes
c'est
européennes.
C'est son objectif, en plus, hein, donc elle travaille beaucoup dans ce sens.
Oui, après, là-bas, on sait que c'est très aléatoire. Il n'y a qu'à Paris où on pense qu'il suffit de le programmer, et puis clac, ça va tomber.
C'est pas moi qui l'ai dit.
C'est purement culturel, ce que je dis. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec la valeur des équipes. Mais bien culturellement, sûr. Un club comme le Bayern, la Juve, Barcelone, jamais personne ne va dire mon objectif c'est la Ligue des Champions. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas dire cette année je suis programmé pour gagner la Ligue des Champions. Personne ne peut le dire. Et la Juve, pas plus qu'une autre. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est un objectif très important pour
ils
eux.
Ils ont fait deux finales perdues récemment.
Ils adorent évidemment cette compétition. Elle leur a très souvent échappé. Et c'est vrai que la venue de Ronaldo, elle s'inscrit dans une optique marketing, on a bien compris. Mais quand même, on sait que normalement, Ronaldo a encore deux très belles années de sportives. Peut-être plus, on verra. Mais en tout cas, à coup sûr, deux belles années sportives et que la Juve entend en profiter au maximum.
Oui. Euro.
Ouais, je pense que la Juve n'avait pas de bon ces dernières années. C'était très juste. Mais ils ont fait un recrutement malin cette année en faisant revenir Bonucci. C'est encore plus solide. Et du coup, le Marocain peut de temps en temps dépanner. Ils sont plus très justes sur le plan.
Avec Benatia, oui.
Mendy Benatia. Et puis, au milieu, ils prennent Emre Can pour 0 euro. C'est en plus. Ils ont vendu personne aussi. Il y a Pjanic qui est là. Il y a Matuidi. Vous prenez Emre Can, c'est une solution de plus. Devant, vous avez Ronaldo. Vous avez Mandzukic. C'est une équipe sur le papier avec Dybala. Peut aller au bout.
C'est surtout les. En fait, ils se sont rendu compte que ils ont réfléchi par rapport à certains clubs qui ne pensent pas. Il faut un grand buteur pour faire la différence parce qu'ils sont costauds, ils prennent pas beaucoup de buts, ils sont bien en place. On l'a vu face à Monaco par le passé. Ils sont capables, même s'ils sont moins bons, de vous accrocher. Ils sont capables. Et finalement, il nous faut un buteur. Finalement, le buteur, si Ronaldo répond présent pour moi sur une ou deux saisons, peut-être qu'ils peuvent aller au bout. Et pour moi, j'en fais mon candidat aussi parce qu'attention à cette équipe. On les considère jamais. Oh non, c'est pas fun. Bon, en Italie, c'est facile. Il y a que la Juve. Ouais, mais vous inquiétez pas. Ils sont toujours présents. Non, mais il y en a beaucoup qui pensent pas à eux. On parle toujours des grands. Et finalement, quand ils arrivent en quart et demi, ils sont encore là, la Juve.
Cette année, ils sont clairement dans les favoris. Clairement dans les 3-4 favoris.
Nous, on le sait, mais il y en a beaucoup qui disent pas ce genre de choses.
Et puis Cristiano, effectivement, insuffle souffle de
c'est
de
autre chose que Higuain. Higuain était un très bon joueur, mais Ronaldo, c'est bien évidemment au-dessus. En plus, par la crainte qu'il inspire à l'adversaire, ce sera encore plus vrai ce soir qu'un autre soir, évidemment, parce qu'à Manchester, il y a un respect supplémentaire, mais la crainte de l'adversaire fait partie des grandes qualités d'un grand attaquant.
Rien que si un coup franc à 25 mètres, on a déjà peur. Tout le monde de prix.
Déjà, avec Manchester, il en marquait de superbe. Ah ouais, il tourne sur Internet aujourd'hui.
De partout,
vraiment.
Il en marquait. Ouais.
En tout cas, dans ce même groupe H, alors ça, c'est le match de 21h, et dans le même groupe H, à 16h55 en temps universel, eh bien, vous aurez les Young Boys de Berne qui reçoivent le FC Valence.
Auf Super Hoffe TSG.
Voilà ce qu'on chante dans les travées d'Offenheim de ce stade.
Ça fait rêver, ça. Ça fait rêver.
Surtout quand il n'y a pas la musique, il faut vraiment respecter le rythme. Alors c'est Offenheim, petite ville paisible de l'ouest de l'Allemagne et qui donc accueille ce soir une de ces soirées européennes. 30 000 personnes dans une bourgade qui compte 3 000 habitants, donc finalement 10 fois plus qui vont au stade. C'est dans le Bad Wurttemberg et le TSG Offenheim reçoit donc Lyon, qui entendra cette belle chanson. Une équipe de Gaune qui a bien commencé sa campagne européenne alors que celle des Allemands est moins bonne. Ils cherchent toujours leur première victoire sur leur pelouse. Eux qui disputent seulement une deuxième campagne en Ligue européenne. Une petite ville, une équipe qui ne joue en Bundesliga que depuis 10 ans, Philippe, mais qui a un milliardaire à sa tête et qui a un peu de mal d'ailleurs à séduire en dehors de son enceinte.
Oui, c'est l'histoire classique. On la connaît également à travers Leipzig, bon, mais, dont l'histoire est complètement différente. C'est une ville plus importante, mais il y a le côté Red Bull derrière, etc. C'est le genre de club, si vous voulez, qui arrive par soit des milliardaires, soit une grosse entreprise ou autre, mais qui l'adhésion du public ne va pas avec.
C'est une construction tellement différente du Bayern.
Oui, c'est un côté un peu artificiel, un peu trop neuf, un peu trop nouveau, un peu trop artificiel, pas assez identitaire pour que on aime ces clubs comme le Bayern, Dortmund ou des clubs qui marchent moins bien comme Hambourg.
Et
par
pourtant,
exemple.
Ce milliardaire est allemand. Il ne vient pas d'Inde.
De toute façon, en Allemagne, on ne peut pas y avoir d'étranger.
Mais je pense à par exemple celui qui avait atterri à Cardiff ou qui avait changé les couleurs de maillot et tout. Là, non, il respecte. Il monte l'équipe. Ça fait à peine 10 ans qu'elle est en Bundesliga.
Oui, puis il a fait un grand club. Tout à fait respectable, de rien, parce que c'est un bled, il y a 5000 habitants.
3300, il paraît.
Oui, 3300, bon, vous voyez, j'étais optimiste. 3300,
Il y a une ville de 30 000 habitants, pas trop loin, mais c'est l'industrie. Et en plus, c'est une industrie en Allemagne, puisque lui, c'est dans l'informatique et tout, c'est pas quelqu'un de parachuté. Et malgré tout, dimanche encore, il se faisait siffler dans les stades allemands.
Oui, non, mais c'est effectivement pas facile pour ces clubs-là de s'installer. Il y a un côté identitaire dans le foot qui est très fort. J'entends souvent, on va faire une pique encore, mais j'entends souvent que le PSG ou Manchester City, c'est pas PSG pas seul dans ce cas-là, se sentent mal aimés parmi les grands. Il y a ce côté identitaire. Alors on le respecte ou on le respecte pas, mais les grands clubs, c'est une famille, si j'ose dire.
Il y a Marseillais qui sourit à vos côtés.
Quand on arrive avec beaucoup de moyens et autres, et qu'on veut rejoindre ce Gotha,
vous n'êtes pas toujours bien reçu.
Alors, Offenheim, c'est un degré en dessous, on est bien d'accord. Mais malgré tout, c'est un peu pareil. On n'a pas envie de se faire piquer sa place en Ligue des Champions par un club comme Offenheim. Donc, Schalke ou des clubs comme ça n'ont pas envie d'avoir des Offenheim. Voilà, tout simplement.
Comparaison n'est pas raison. C'est comme si aujourd'hui, un milliardaire venait investir sur Guingamp.
Ouais.
Exactement.
C'est plus grand qu'Offenheim,
exactement. Et on investit à Guingamp et on veut que demain, que ce soit Paris et Guingamp qui jouent la Ligue des Champions. Ouais. Ça aurait été mal vu du côté de Marseille.
On se souvient du Chinois qui est allé à Sochaux.
Récemment, Marseille et Lyon ont fait une campagne. Récemment, c'est quand même quelques années. D'abord contre Monaco, parce qu'ils estimaient que Monaco, c'était de l'argent trop facile, pas d'impôts, pas de machin, pas de trucs, etc. Donc, ils ont essayé de barrer Monaco. Après, il y a eu les discours de l'AS sur le PSG. Il faut les comprendre comme ça, ces discours, en disant « Ouais, mais attendez, moi, je peux pas suivre des milliardaires. » Alors, ça va encore, parce que Monaco, PSG, c'est des noms respectables dans le foot. Mais effectivement, Offenheim, c'est Guingamp. Quoi. C'est comme si, tout d'un coup, un milliardaire met de l'argent à Guingamp.
C'est ça. Mais il a réussi quand même de beaucoup sur le plan sportif, et faire venir Firmino, par exemple.
Alors voilà, découvreur de talent.
Dembaba, quand il quittait la Belgique pour aller signer à Offenheim, personne ne le connaissait.
Luis Gustavo passait par là aussi.
Exactement.
Et leur entraîneur, si jeune, il est arrivé, il avait 29 ans, il partira justement à Leipzig l'année prochaine.
Il a 31 ans, il paraît qu'il a été un petit peu formaté par l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, et c'est lui qui visionnait les matchs quand ils étaient dans un club allemand. Il paraît que c'est enfin un tacticien. Mais bon, je pense que Lyon, quand même, est un degré au-dessus de cette équipe.
Justement, on va y venir.
Non, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est petit club, puisqu'on se rappelle aussi que Guingamp, à l'époque, a joué la Coupe d'Europe contre l'Inter dans les années 97 ou 98.
Pas la Ligue des Champions.
Pas la Ligue des Champions. Mais ça perturbait déjà. Moi, je jouais encore à l'époque et ça perturbait énormément que Guingamp soit déjà, puisque Le Graët était le président. Enfin, c'était assez compliqué. Et après, ce qui est dommage, c'est que ces clubs-là dont on a parlé créent. C'est-à-dire que on prend l'exemple que Drogba est passé par là-bas. On a Maoulida qui est passé. On a eu, comment il s'appelle? Ouais, Guingamp, ils sont passés par là. Et après, ces clubs-là les récupèrent. Le président Aulas, Claudio Beauvue est passé par Guingamp. Il a récupéré de suite parce qu'il marquait des buts. Et après, on lui dit, ah ben non, mais ces clubs-là nous dérangent si cela. Donc, Hoffenheim est un très bon tremplin. Ils sont en train de mettre des choses en place.
Évidemment.
Il faut les respecter. Par du temps, ils en ont rien à faire. Mais il faut pas que ça perturbe les gros. C'est ça, là, comme le dit Philippe. Il faut pas perturber les gros.
Alors, ah, là, Lyon est-il un gros? Ben, c'est la question qu'on peut se poser. Mais après avoir gagné chez les Citizens, eh ben, peut-être que d'aller gagner en Allemagne n'est pas mission impossible. En tout cas, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a préféré quand même être prudent dans ses propos d'avant-match. Très diplomate,
d'accord.
On va même dire.
On va écouter ça alors.
Hoffenheim est une équipe très puissante, très sûre d'elle-même, une équipe allemande. Et on sait aussi que si Hoffenheim veut poursuivre sa route, elle doit absolument gagner. On sera d'autant plus évidemment attentionné pour essayer de créer un exploit, puisque quand les Allemands sont favoris, en général, ils gagnent. Mais si l'Olympique Lyonnais faisait un résultat, un match nul ici, ça lui ouvrirait les portes de la qualification. Alors qu'effectivement, il faut pour Hoffenheim une victoire sur son terrain pour avoir les mêmes ambitions que l'Olympique Lyonnais. Le match nul serait véritablement un exploit et c'est ce qu'on est venu faire.
Mission match nul, donc, donner comme consigne aux joueurs, Marc.
Non, mais déjà, premièrement, les Allemands, enfin, soi-disant, la fameuse parade, les Allemands jouent le match et ils gagnent toujours, ça fait un moment, maintenant, c'est nous, les Français, qui gagnons par rapport aux Allemands.
Oui, c'est ce que dit Gary Lineker, on en a parlé.
Exactement. Ce sont les Allemands qui jouent bien et qui perdent.
Exactement.
Ce sont les Français qui jouent pas bien et qui gagnent.
Mais, je suis pas d'accord avec le président Aulas, c'est que, quand on est capable d'aller faire une telle prestation à City, aujourd'hui, je suis désolé, mais même l'exploit, oui, c'est un exploit, mais ce qu'ils ont montré sur le terrain, mais ce qu'ils ont montré sur le terrain, ce qu'ils ont été capables de faire, si aujourd'hui on me raconte que, attendez, Hoffenheim, si on prend un point, c'est bien, surtout que dans 15 jours, là, c'est vraiment aller-retour, c'est-à-dire qu'on peut les recroiser, enfin, ils vont les recroiser dans 15 jours, et qu'on nous dit, ah, mais non, on réfléchisse. Non, mais là, on n'a rien compris. Donc, moi, ils doivent s'imposer impérativement.
Non, mais c'est un discours donc diplomate.
Mais j'ai pas envie d'entendre ce discours. Je suis consultant, je peux pas l'entendre. Quand on est capable de faire cette prestation qu'on a, on est, alors oui, il y a pas Fekir, OK, mais il y a quand même des choses qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, Hoffenheim, il était quand même un tout petit, on a fait l'historique, tout ce qui se passe. Aujourd'hui, l'OL a quand même un effectif qui tient la route, ils doivent aller chercher le résultat.
Alors, vous voulez entendre quelque chose de mieux? Ben on va écouter Bertrand Traoré, l'homme intègre, comme on dit aussi, le Burkinabé, joueur et buteur de l'OL. Lui, il est moins diplomate et plus d'envie sûrement.
On est bien rentré dans cette compétition, on a allé gagner à City et après on a eu un match assez difficile contre le Shakhtar dans un contexte très très difficile, mais on arrive à arracher le match nul vers la fin. Je pense que ce match a été très important pour nous et pour l'instant on n'a pas fait de défaite. Chose qui est très importante, qui nous donne aussi de la confiance pour la suite. Pour nous, en venant ici, c'est de prendre le meilleur résultat possible. C'est le meilleur résultat possible, c'est de prendre les 3 points et qui sera décisif pour la suite de la compétition.
Voilà, Bertrand Traoré, lui, veut les 3 points euro. Quel genre de Lyon on verra ce soir? Est-ce qu'on verra le Lyon de Manchester City ou est-ce qu'on verra celui qui a reçu le Shakhtar Donetsk?
Je ne sais pas, parce qu'on n'y est pas encore.
Hein, c'était un match nul seulement après avoir été mené 2-0.
Tout dépendra aussi de la composition de Pep Genesio, de Bruno Genesio pour ce match, parce que je pense bien...
Pep Genesio, alors.
Ouais,
vous avez adopté là.
On a renommé. Hein.
Ouais, exactement. Et je pense que face à City, il y avait une doublette de milieux récupérateurs, Diop et Ndombele, et qui a fait un excellent travail sur ce match-là. Et contre...
Il ne le répète pas, hein, cette duplette, et on ne sait pas trop pourquoi.
personne ne sait. Et deux semaines après, c'était une autre équipe, une autre composition d'équipe. Bertrand Traoré, qui n'était pas titulaire, était titulaire ce jour-là. Max Cornet était sur le banc. Et je pense qu'aujourd'hui,
en juin... Alors là, il n'y a pas Fekir et Max Cornet non plus, parce qu'ils sont tous les deux blessés.
Ils sont blessés. Et je pense que pour aujourd'hui, j'ai vu la petite compo dans les journaux. Peut-être Depay va jouer en soutien de Dembélé. Et c'est quand même osé. Et... parce qu'aujourd'hui, on est à une victoire d'une qualification presque. Presque. S'ils gagnent aujourd'hui, ils sont qualifiés. Il ne faut pas être frileux. Il faut jouer le jeu. Il faut jouer pour la gagne. Et ils peuvent remporter ce match.
Philippe, ils peuvent remporter ce match avec Depay, notamment Depay Dembélé qui est un peu mis en avant, cette Dédé. Ils n'ont pas encore beaucoup joué ensemble, mais apparemment, en tout cas face à Nîmes, alors c'était que Nîmes, hein, c'était pas Offenheim, mais c'était...
Ils ont eu chaud face à Nîmes, ça a été compliqué.
Exactement, et c'était très complémentaire. Compliqué.
Non mais dans ce groupe, Lyon avait sa chance, on le savait depuis le début, mais évidemment avec les trois points qu'ils ont pris à City, ils sont dans une position ultra favorable. Mais évidemment, les deux matchs face à Offenheim sont vitaux, parce qu'après, Lyon reçoit City. Rien ne dit que le résultat du match retour sera le même que celui du match aller. Donc, il se mettrait en danger s'il faisait. Il faut faire minimum 3 points contre Offenheim sur l'ensemble des deux matchs. S'ils font 4 points, ils sont qualifiés. Justement, 4 points sur les deux matchs, ils sont qualifiés.
Ce qui est intéressant de Lyon, peut-être Philippe, tout à l'heure, vous rappeliez que le PSG s'est mis donc comme objectif de gagner la Ligue. Eux, évidemment, personne n'a envie de la perdre. Tout le monde aimerait la gagner. Mmh. Mais c'est peut-être l'équipe qu'on n'attendait pas le plus en Ligue des Champions cette année, en tout cas d'entrée.
Non, mais l'OL n'a plus la dimension pour gagner la Ligue des Champions. Ils le savent.
Mais malgré tout, ils vont battre City.
Parce qu'ils voient bien la différence entre l'équipe qu'ils étaient capables de constituer il y a 10 ans et celle il y a 12 ans même maintenant et celle d'aujourd'hui. Mais ça, il n'empêche qu'ils sont quand même revenus dans le jeu. Ils ont fait une demi-finale d'Europa League. Ils ont fait une très très mauvaise saison en Ligue des Champions, je me rappelle plus, il y a 3-4 ans. Mais l'année d'après, c'était déjà mieux. L'année où ils ont fait demi-finale, ils avaient fait une première phase correcte contre la Juve et Séville, même s'ils n'avaient pas le niveau pour passer. Mais enfin, ils se rapprochent. Mmh. Et là, le match contre City
a tout changé.
A tout changé et démontre que non seulement ils se rapprochent, mais ils sont en position d'aller en huitième. Il ne s'agit pas de gagner la Ligue des Champions, il s'agit d'aller en huitième.
Oui, et ce qui est déjà un bel objectif. Alors, autre match à surveiller hein, dans ce même groupe, là aussi à 21h, ce sera donc le Shakhtar Donetsk face à Manchester City. Un petit mot sur deux autres affiches peut-être intéressantes. Le Real Madrid, Marc Libra qui reçoit...
Victoria Pilsen.
Voilà, le Victoria Pilsen. Gagné ou gagné hein, pour Julien Lopetegui après les mauvais résultats récemment, mais surtout pour être sûr eux aussi de passer en huitième, ce qui est la moindre des choses pour un grand Real Madrid, théoriquement.
Oui, oui, non, mais après...
Sauf qu'en ce moment, il est petit.
Ouais, enfin, il est petit quand on voit les résultats des matchs de ce week-end, c'est pas forcément beaucoup de chance, parce qu'ils ont, en se permettant de mettre de côté Kroos, de Benzema, de Bale, même si Benzema rentre, qu'il est passeur sur le but de Marcelo, ça a été forcément pris au sérieux. Maintenant, cette équipe-là, elle est programmée pour ce genre de rencontre, ce genre de match. Maintenant, ce qui vient me perturber, c'est si on nous annonce que l'entraîneur vraiment doit partir. Ils ont vécu quelque chose de terrible, puisqu'ils perdent Ronaldo, qu'on ne remplacera jamais, quoi qu'il arrive, et surtout Zidane, aujourd'hui. Et le recrutement, on prend Diaz de Lyon. Il faudra m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, Donc, il y a des choses qui se mettent en place. En championnat, ils sont qu'à 4 points de Barcelone, ils ne sont pas décrochés, et on parle déjà de grosses crises. Je pense que ce soir ils vont répondre présent en tout cas.
Voilà en tout cas. Et puis Philippe, il y a un Ajax Amsterdam Benfica de Lisbonne. Alors ça a des airs un peu vintage, mais l'Ajax est premier de ce groupe alors que le Bayern va jouer en Grèce.
Oui, ça aurait pu être une finale, ça aurait été une demi ou un quart dans les années début 90. Des années 70
et même 90 je pense quand Benfica 88 89 je pense. Benfica avait fait une demi-finale. Et
oui, mais pas l'Ajax.
Mais pas l'Ajax.
Est revenu après.
Après.
Mais enfin, en tout cas, fin des années 60, début des années 70, c'était deux clubs qui jouaient. Il y avait eu d'ailleurs un affrontement en match d'appui à Colombes. Enfin, ça nous en renvoie. beaucoup plus loin encore, fin des années 60. Mais effectivement, c'était deux grands clubs. Moi, ce qui me navre un petit peu dans cette Ligue des Champions, c'est qu'aujourd'hui, on a quoi? On a Ajax, Benfica. L'étoile rouge, on a plein de grands noms du passé dont on sait que quasiment aucun d'entre eux n'a la moins Anderlecht ou autre. aucun n'a quasiment aucune chance d'aller en huitième de finale. On a peut-être un des deux, parce qu'Ajax et Benfica sont dans le même groupe. Allez, on va dire qu'il y en a un des deux qui va y aller. Mais sinon, ils n'ont aucune chance. Et malheureusement
c'est l'évolution pas beaucoup plus que le huitième.
C'est l'évolution du football. En dehors des cinq grands championnats, on peut plus passer, à part un Portugais une fois de temps en temps, et encore, qui est loin d'aller au bout.
On a aussi un AS Rome dans ce même groupe, AS Rome CSK Moscou dans le groupe du Real Madrid, et il y aura aussi ce match à surveiller. Sur le continent africain, soirée aussi de Ligue des Champions, la Ligue des Champions de la CAF, avec les matchs retour des demi-finales. Deux affiches dès 18h. L'Espérance de Tunis reçoit le club angolais Primeiro de Agosto, vainqueur à l'aller à Luanda sur le score de 1-0. Un but à préserver, ce ne sera pas simple en Algérie, explique l'entraîneur serbe Zoran Mladenovic.
We play one game in Angola, we see that game.
Nous avons joué en Angola et nous avons gagné. Mais nous savons que l'Espérance est une équipe très forte à domicile, car elle sera soutenue par un stade rempli par 50 000 spectateurs et qui deviendront un 12e homme pour eux. Ce sera un match très difficile, mais toute la pression sera sur l'Espérance, car c'est un grand club, habitué à disputer les demi-finales et les finales, alors que nous n'y sommes que pour la première fois. Toute la pression sera sur eux et nous ferons tout pour en profiter.
Toute la pression sur l'Espérance Tunis, évidemment, un but de retard, mais en même temps, il le décrit bien, l'ambiance à Tunis avec un 12e homme opposé.
Ce sera très difficile pour le Primeiro de Agosto parce qu'ils savent que le public va pousser énormément. Mais bon, c'est une équipe...
Eux, ça sera tellement important pour cette équipe de Luanda.
Qui n'a jamais joué une finale, mais bon, c'est une équipe qui voyage bien. Ils ont été chercher leur qualification au tour précédent à Mazembe, et qui connaît Lubumbashi. C'est également très difficile de jouer chez les Corbeaux. Ils ont été faire un match nul là-bas. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. Ils ont pris 7 en 11 matchs. C'est une équipe calibrée, une équipe... qui ne joue pas un jeu chatoyant, un jeu que l'on aime voir souvent dans le nord de l'Afrique, mais c'est une équipe très 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 solide. Hein. Et je pense que le football angolais est en train de repartir. Ils ont connu 3 voire 4 années très difficiles à cause de la chute du baril du pétrole.
De pétrole, oui.
Beaucoup de joueurs sont partis, mais là ils commencent à recruter pas mal de jeunes joueurs qui sont en deuxième division en Portugal et dans quelques championnats étrangers comme le Sénégal. Dans cette équipe de Primeiro de Agosto, il y a d'ailleurs des Congolais, il y a des Nigérians.
Oui.
C'est une équipe qui peut vendre cher aujourd'hui sa peau.
Philippe, plutôt Angola ou plutôt Tunisie?
J'aurais tendance à donner une prime quand même à l'expérience et à l'espérance, même si effectivement ce score de espérance et expérience, oui, enfin, on peut se mélanger, ça marche. Même si effectivement ce score de 1-0 est un score très, très difficile. Le moindre but des Angolais, on l'a vu face au TP Mazembe, ils les ont éliminés sur un but. Bon, aussi avec un gardien qui a arrêté 2 pénaltys, il ne faut pas l'oublier non plus à Lubumbashi. Mais j'aurais tendance quand même à penser que sur le moment important, alors on l'a vu dans la Coupe de Confédération, où dès les demi-finales allées, l'expérience a fait que les clubs qui sont les deux favoris ont pris un avantage relativement net, pas forcément très net pour Vita Club, mais enfin on les sent en position de se qualifier.
De force.
Autant en Ligue des Champions, ça a été le cas de Al Ahly, il y a que l'Espérance qui pour l'instant est un peu en repli, mais il me semble quand même, alors avec un public limité, parce qu'il s'est limité à 40 000 spectateurs, parce que la CAF, et puis en Tunisie, il y a des problèmes dans les tribunes, et c'est déjà pas mal pour eux qu'ils aient été autorisés à 40 000 spectateurs, mais je pense quand même, j'ai un peu dans l'esprit que malgré tout, l'espérance devrait être au rendez-vous. Ouais.
La tendance. Par contre, à 21h, le rendez-vous est à Sétif en Algérie. Sétif qui reçoit Al Ahly, donc l'équipe égyptienne. Largement favorite en fait de cette compétition qu'on voit déjà en tout cas en finale. En demi-finale, ils ont gagné par 2-0 à l'aller, mais Patrice Carteron, le Français, veut rester très prudent.
On sait que c'est toujours très difficile, que l'Algérie est une terre de football avec des clubs bien structurés, bien organisés, avec un public fantastique. C'est vraiment dans cet état d'esprit de combat qu'on vient ici. On sait qu'il va falloir faire un grand match pour obtenir un grand résultat et mériter de se qualifier pour la finale.
Un match compliqué peut-être pour Al Ahly, mais Rachid Taoussi, qui est l'entraîneur de Sétif, le Marocain, a déjà dit « oui, mon équipe dispute beaucoup de matchs ». On a l'impression qu'il prenait un peu les devants.
Parce qu'il sait que c'est très difficile de battre Al Ahly du Caire. Et puis Al Ahly n'a pas fait n'importe quoi. Ils ont amené un entraîneur, Patrice Carteron, qui connaît très très bien cette Ligue des Champions pour l'avoir gagnée avec le TP Mazembe en 2015, si mes souvenirs sont bons. Et il revient en Afrique. C'est quelqu'un qui connaît très bien la rigueur que demande cette compétition en Afrique, parce que il a connu ça, et plus en plus il a gagné 2-0 à l'aller, donc il n'a pas à avoir peur. Et donc tu as aussi raison, ça va être très très difficile de battre Al Ahly cette saison, parce que j'ai vu leur match sur Canal Plus d'ailleurs, en Afrique on suit ces rencontres là mais bon, les lignes sont beaucoup resserrées. Quand Al Ahly joue, ils font pas n'importe quoi, et c'est une équipe très très solide et belle à voir.
Philippe.
Et puis, alors, j'ai vu que le Rachid Taoussi, l'entraîneur marocain de Sétif, se plaignait du calendrier. On doit espérer que l'année prochaine, avec une Coupe d'Afrique qui va se dérouler dans une partie du calendrier normal, si j'ose dire. C'est-à-dire que pour l'instant, là, on était sur des calendriers annuels.
Annuels,
ce qui fait qu'on se retrouvait en fin de compétition. Il y a soit des clubs qui ont trop de matchs, qui n'arrêtent pas de jouer à la fois en championnat, en Coupe d'Afrique, soit des clubs qui n'ont même pas débuté le championnat.
C'est le cas de Primeiro d'Agosto, par exemple.
C'est le cas de Primeiro d'Agosto, qui ne joue pas en championnat.
Il démarre le samedi.
Et qui parfois même change de joueur en cours de route, parce qu'on est en intersaison, donc évidemment on a vendu des joueurs, on en rachète d'autres. Bon, j'espère que enfin les calendriers vont s'harmoniser. Alors ce sera le cas en ce qui concerne la Coupe d'Afrique. J'espère que les championnats suivront et eux aussi auront une périodicité à peu près du même genre, de manière à ce que les compétitions soient uniformes, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais bon, moi honnêtement, je ne crois pas un instant que Sétif soit capable de bousculer Al Ahly. Je pense que Al Ahly est dans son élément et qu'ils vont en finale.
Eh bien, c'est ce qu'on verra ce soir. N'oubliez pas notre rendez-vous en sortie de match à 21h10 en temps universel. On continue et on fait un petit tour en Angleterre pour terminer.
A trouvé Bellerin, oh, superbe inspiration de l'arbitre, ça peut être un but exceptionnel. Il y avait le mouvement incroyable face à Fulham, il y aura celui face à Leicester, emmené par Ozil, par Lacazette et par Aubameyang. Ce Arsenal-là est irrésistible.
Ce Arsenal, et oui, Pierre-Emerick Aubameyang, inspiré, qui a même inscrit un doublé hier soir dans cette 10e victoire d'Arsenal, des Gunners donc très en forme. Une victoire obtenue sur les Foxes de Leicester et qui signe surtout le retour dans le Big Four de la première ligue de cette équipe d'Arsenal. Une belle victoire dans la douleur. À vous, l'entraîneur Unai Emery.
Nous avons souffert les 30 premières minutes, comme trop souvent depuis le début de la saison. Mais on a bien fini la première période et la deuxième mi-temps était meilleure. Nous avons progressé au fil du match, nous avons joué avec une bonne attitude, un bon niveau et avec beaucoup de cœur. Le public a été extraordinaire durant 90 minutes. La victoire est importante et nous la méritons.
Marc, est-ce qu'on reconnaît cette équipe des Gunners cette saison? Est-ce que quand il parle de douleur mais avec le cœur, est-ce que c'est le mélange finalement qu'a insufflé Unai Emery cette année?
Oui,
parce que l'effectif est resté extrêmement stable par rapport à l'époque Wenger.
Oui, c'est vrai. Après, je pense que cette équipe-là, elle est un petit peu pareille que la saison passée, puisqu'il faut savoir que la plupart du temps, que ça soit sur les dernières rencontres, je me rappelle que j'ai vu Watford victoire 2-0 d'Arsenal chez eux, ils étaient malmenés, ils marquent en fin de match. Que ça soit, alors on oublie la C3 parce que pour eux c'est tout bonus. On prend l'exemple de Fulham, ils gagnent 5-1, mais à la mi-temps il y a un partout et c'est très compliqué. Hier soir encore une fois à la mi-temps il y a un partout, c'est très compliqué. Alors c'est vrai, on va se rappeler du fameux but parce que ça fait très longtemps qu'on n'ait pas vu ce but d'Aubameyang qui part de derrière, on relance, c'est le football parfait.
Voilà, je pense que cette équipe-là.
Emery aujourd'hui a amené sur un plan physique autre chose. Parce que vous savez, quand vous bossez avec le même coach depuis des années, vous avez les mêmes façons de travailler le lundi, le mardi. Je pense qu'il amène autre chose. Et cette équipe-là, aujourd'hui, elle finit fort ses matchs tout le
temps.
C'est
le changement
La différence de coach, moi je vous ai toujours dit, j'ai croisé 3 ans, 4 ans des coachs. À un moment donné, on sait ce qu'on va faire lundi, on sait ce qu'on va faire mardi, on sait ce qu'on va faire mercredi, jeudi, on sait tout. Alors ça va évoluer peut-être une fois, mais les grandes lignes sont là. Donc là, à l'arrivée avec Emery, il y a autre chose. Et peut-être que physiquement, ils sont. Parce que chaque fois, ils arrivent à faire la différence. Parce qu'il dit 30 minutes. Hier soir, je pense que sur la première période, il y a un partout. Ils sont pas et puis
ah oui,
ils
le reconnaît hein, ouais, ils sont pas simple, mieux disons.
Donc et après on me dit parce que les gens m'ont dit oh mais t'as vu ce but Arsenal est de retour non j'ai vu le match
ils sont ouais. pas de retour
je dis pas qu'ils sont pas de retour je dis juste que sur un plan physique aujourd'hui il aura amené autre chose et Aubameyang qui rentre en fin de match a encore inscrit un doublé le match précédent il avait inscrit un doublé donc oui c'est important il y a des choses qui se créent mais encore une fois, est-ce que c'est la casette qui va démarrer? Est-ce que c'est Aubameyang? On tourne tout le temps, il y a beaucoup de ça c'est important aussi puis Ozil qui est très bon puis d'un coup il disparaît.
Bah là, il a été bon.
Rien de nouveau sous le soleil. Oui,
il a contribué. Oui, non, mais on le connaît.
Sur une période, mais sur les 35-40 premières minutes, Arsenal, ils sont pas dans le coup.
Philippe, est-ce que c'est pour, est-ce que c'est un retour pour durer? Alors,
c'est
puisqu'ils
sont,
ce but ils sont
pour
dans
moi,
le...
à tout, enfin, ce but de hier soir, le fameux troisième but, il perturbe tout le monde, quoi. Enfin, le troisième but, ce but d'Aubameyang.
Perturbe en positif.
Tout le monde, ah oui, mais tout le monde me dit, mais ça y est.
Non, il fait tourner la tête.
Complètement. C'est vrai.
Mais bon, ce que dit Marc est juste, évidemment, évidemment, si on en juge par ça, on retrouve toutes les vertus d'Arsenal. Quand je dis on retrouve, parce que ça existait avant Unai Emery, évidemment, ça existait du temps de Wenger, mais de manière trop irrégulière. Donc voilà, avant de juger, ce que veut dire Marc en creux, c'est ça, c'est qu'avant de juger, il faudra voir sur la durée. Alors cela dit, la durée, elle est déjà en partie là, parce que 10 victoires consécutives, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas eu que 10 grands matchs, il n'y a pas eu 10 grands matchs non plus, mais personne ne fait 10 grands matchs de suite de toute façon. Donc c'est conséquent, et voilà, il faut l'admettre très volontiers.
On est
ravis de revoir un Özil comme ça. Ça paraît magique. Et il faut le mettre évidemment au crédit d'Emery. Il faut le mettre au crédit d'Emery évidemment parce que ça fait un bout de temps qu'on l'avait pas vu comme ça. Après bon bah voilà, il va falloir juger sur la durée parce que Arsenal, on le sait, on peut juger ce qu'on veut de Wenger, d'Emery ou autre. Arsenal n'a pas la meilleure équipe de Première Ligue. Ils sont pas les meilleurs gens de Première Ligue. Vous pouvez prendre le truc par tous les bouts. Donc il faut vraiment, on ne jugera vraiment que cette équipe a pris une autre dimension et qu'elle est capable d'être au niveau des tout meilleurs
que
sur la durée.
Oui, et donc après la fameuse période de Noël qui est un peu révélatrice.
Ah oui, puis quand ils joueront les autres gros,
voilà, tenir sur la distance.
C'est les gros.
Ils joueront les autres gros.
C'est surtout
parce
ça.
Parce qu'il y a beaucoup de gros en Angleterre. Il y en a 6.
Hein. Exactement.
Bon, pour l'instant, ils ont joué 2 matchs contre eux, ils ont perdu. Oui. Mais c'était les deux premiers.
Les deux premiers
ils ont beaucoup progressé depuis. On va pouvoir juger dès qu'ils vont jouer Liverpool très bientôt.
Euro.
Je pense que c'est ce qu'il faut attendre. Attendre que Arsenal joue les gros pour voir est-ce qu'il y a une évolution, oui ou non. Gagner 10 matchs, c'est très bon. On sait que Unai Emery, moi j'ai toujours dit que c'était un excellent entraîneur, même quand il était au PSG, parce que gagner 3 Europa League d'affilée, c'est pas donné à n'importe qui. Moi l'année dernière, Garcia il gagne.
Ça c'était avant le PSG, les 3 Ligue Europa.
Mais il les a gagnés.
Hein.
Il les a gagnés.
Bien sûr. Garcia il gagne une Europa League, je fais construire sa statue à Marseille parce que. Oui, exactement. Ça fait tellement longtemps qu'une équipe française n'a pas gagné une Coupe d'Europe.
Même pour une finale, il faudrait mettre une statue pour une finale.
Exactement. Je viens t'aider à la construire.
Ouais, exactement. Quelqu'un gagne 3, c'est une pipe. C'est un excellent entraîneur.
J'avais dit
mais,
ça tout le temps.
Mais je ne vais pas le juger parce qu'il a fait 10 matchs. J'attendrai de voir face au gros qu'est-ce que Arsenal pourra donner.
C'est évidemment un très bon entraîneur. Ce n'est pas parce qu'il a échoué au Paris Saint-Germain.
C'est un autre contexte de toute façon.
Puis tout entraîneur échoue à un moment de sa carrière. Même les grands ont échoué.
Oui, mais
partout.
Il a gagné à chaque fois le championnat.
Non, il n'a pas gagné le championnat avec le PSG.
Oui,
c'est quand même une tare. C'est quand même une tare.
Il a perdu qu'une fois.
Une fois.
Une fois sur deux, oui. Non, puis il y a eu trop de.
Mais peut-être qu'il n'avait pas aussi toutes les, tout le, enfin le pouvoir.
Absolument.
Est sûrement différent.
Le fait est qu'il ait échoué. Après, on peut. Je ne sais pas ce qu'on entend. J'entends des
il
trucs.
Il parle de remontada.
Il a échoué. Bon, très bien. Mais ça ne veut pas dire que ni que c'est un mauvais entraîneur et ça ne l'a jamais été, ni que effectivement il est l'unique responsable de ça.
Non,
ça voilà, c'est clair.
La question c'était peut-être aussi est-ce que c'était l'homme qu'attendait donc Arsenal. Est-ce que pour le moment, alors, est-ce que c'est l'homme de la transition ou est-ce que c'est l'homme qui vient pour s'installer, Euro?
Tout dépendra des résultats qu'il aura. Parce qu'un entraîneur sur la durée comme Arsène Wenger, je pense que c'est terminé.
Oui, bien sûr.
Voilà,
ça n'existera plus.
Ça c'est fini. Non, ouais. Il sera là pour 2-3 ans, histoire de remettre Arsenal sur de bons rails. Et lui, chercher d'autres challenges. S'il gagne, s'il fait de très bons résultats, il va vouloir plus qu'Arsenal. C'est ce
là où Euro a complètement raison, c'est, il faudra jamais comparer. parce que Emery d'abord ne restera pas 22 ans à Arsenal, s'il reste 2-3 ans, bah, c'est très bien. Et Arsenal est devenu un autre club. Donc c'est fini, tout ça est terminé, tout ça est incomparable et on ne va pas comparer l'époque Thierry Henry avec le Arsenal d'aujourd'hui. Bon, voilà, alors, il faut devenir un très bon club maintenant. Voilà,
il y a juste un fait, ils sont dans le Big Four pour l'instant de Première Ligue revenus. Et c'est pour ça qu'on en parlait. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup messieurs, merci aussi à David Finzel avec qui j'ai préparé l'émission aujourd'hui. Laurent Salerno était à la réalisation et on vous dit à tout à l'heure.